Et maintenant, sur Charladie, on fait place aux plaidoiries de Madame Lagrange avec ses élèves. Pour commencer, nous aurons Elliot et Valentin sur les camps de Corée du Nord. Ensuite, Lisa sur l'accueil des migrants et en Norvège et en France. Puis Camille et Emma sur le droit de tous à la santé, y compris les plus pauvres. Avant la fin, nous aurons Evan contre la peine de mort existant encore dans certains pays. Puis pour terminer, Locoma sur les souffrances scolaires.
Dans le système judiciaire,
les jeunes de Coutances
sont membres d'une unité d'élite, appelée unité spéciale pour les crimes particulièrement monstrueux. Voici leurs histoires.
Connaissez-vous Shin Dong-hyuk ? Non ? C'est bien dommage. Mais rien d'étonnant. Shin Dong-hyuk est un rescapé nord-coréen vivant en Corée du Sud. Il est la seule personne connue, née dans un camp nord-coréen, à s'être échappé de la zone de contrôle maximale d'un camp d'internement. C'est malheureusement la vie de près de 80 000 à 120 000 personnes en Corée du Nord qui sont incarcérées dans les camps de concentration. Nous, Elliot et Valentin, âgés de 16 ans, avons été surpris de l'existence de ces camps, méconnus du grand public.
Les camps ont été créés dans les années 50 par Kim Il-sung, le grand-père de Kim Jong-un, le dictateur actuel de la Corée du Nord. Il les appelle les Kwanliso et sont directement inspirés des goulags de l'URSS. En Corée du Nord, tous les Coréens savent ce qu'il se passe dans ces camps pour les dissuader de ne pas s'opposer au régime. Les prisonniers sont torturés, meurent de faim et travaillent plus de 10 heures par jour, même quand ils sont enfants. Dans les Kwanliso, les victimes sont principalement des personnes qui s'opposent au régime politique de Kim Jong-un, qu'ils soient politiques ou membres de la population. On peut même y trouver des enfants et des bébés, car lorsque les femmes arrivent enceintes dans les camps, elles sont obligées de les garder pour que les gardes puissent les torturer à leur naissance. Comme c'est le cas de Ji-hyeon, qui était témoin de l'une de ces horreurs. C'était la première fois que nous voyions un bébé naître. Nous regardions ce bébé et nous étions si heureux. Mais soudain, nous avons entendu des bruits de pas. L'agent de sécurité est entré, nous a dit de mettre le bébé dans l'eau à l'envers. La mère a donc supplié, mais cet agent a continué à abattre le bébé qui venait de naître. Pleuré, la mère, avec ses mains tremblantes, a pris le bébé, l'a mis dans l'eau, face contre terre. Le bébé s'est arrêté de pleurer et nous avons vu une bulle d'air sortir de l'eau.
Mais revenons à l'histoire de Shin Dong-hyuk. Il est né dans le camp de détention de Kwancho, appelé le camp 14. En 1882, il n'a réussi à s'échapper qu'en 2005, à 23 ans. Vous vous imaginez vivre dans un camp comme lui pendant 23 ans? En s'échappant, il s'est réfugié en Corée du Sud, auquel actuellement il a la nationalité. Mais le camp 14 n'est pas le plus sinistre. Le camp 15, appelé Yodok, est réputé pour être l'un des pires. Un ancien prisonnier, Kwon Cheol Wan, nous témoigne. C'était une vie de dur labeur. 30% des nouveaux prisonniers mourait et nous étions si mal nourris que nous mangions des rats et des vers de terre pour survivre.
Mes parents ont quitté la Roumanie car ils avaient plus d'opportunités d'emploi en dehors de la Roumanie. Aujourd'hui, c'est assez courant de déménager à l'international comme l'ont fait mes parents. Mais l'augmentation des opportunités d'emploi n'est pas la seule raison pour laquelle les gens partent à l'étranger. Beaucoup de gens fuient également l'étranger dans l'espoir d'une vie meilleure. Imaginez un instant le parcours d'un réfugié, fuyant la guerre, abandonnant tout ce qu'il connaît pour un avenir incertain. Ce n'est pas un choix facile, mais un acte de survie. Aujourd'hui, l'immigration est un sujet complexe qui soulève des questions sur notre identité, notre économie et nos valeurs fondamentales. Ensemble, nous pouvons construire une société plus forte, plus diverse et prospère. Une société qui respecte les droits humains, et tout en assurant sa sécurité. Une société qui voit dans chaque migrant non plus qu'une menace, mais un potentiel à réaliser. Une mauvaise politique d'intégration influence non seulement les migrants, mais aussi la population locale. Avec des mauvaises politiques d'intégration, les différences sociales seront de plus en plus grandes et marquées. L'intégration est l'une des choses les plus importantes en matière de la migration internationale. Aidez-nous à améliorer la politique d'intégration pour contribuer à créer une société meilleure pour tous.
Quand l'accès à la santé dépend de vos revenus, on bascule dans un système injuste. Ceux qui ont les moyens peuvent se soigner rapidement, accéder aux meilleurs hôpitaux et aux traitements les plus efficaces. Pendant ce temps, les plus pauvres doivent parfois choisir entre aller chez le médecin ou payer leur loyer.
Et cela ne concerne pas que les pays en développement. Même dans des pays riches, comme les États-Unis, des millions de personnes renoncent aux soins faute d'assurance santé. Peut-on vraiment accepter ça? La santé, ce n'est pas un privilège. Ce n'est pas un luxe qu'on peut se permettre ou pas. C'est un besoin fondamental.
La peine de mort est souvent présentée comme la solution ultime pour punir les criminels les plus dangereux. Pourtant, derrière cette soi-disant idée de justice se cachent de graves injustices et de nombreuses erreurs. Peut-on vraiment accepter une peine aussi irréparable, alors que des erreurs judiciaires et des inégalités continuent d'exister dans nos systèmes judiciaires? La peine capitale, loin de représenter une justice parfaite, montre parfaitement les failles et les limites de notre société. Commençons par les erreurs judiciaires, ces tragédies qui tachent l'image de la justice. Dans de nombreux cas, des innocents ont été condamnés à tort, souvent en raison de préjugés, d'enquêtes bâclées ou de preuves insuffisantes. Aux États-Unis, depuis 1973, plus de 190 condamnés à mort ont été innocentés grâce aux avancées scientifiques, comme les tests ADN. Ces chiffres impressionnants révèlent une triste vérité. La justice humaine, aussi importante soit-elle, reste faillible. Mais que se passe-t-il lorsque ces erreurs ne sont découvertes qu'après l'exécution? Dans ces cas tragiques, des vies sont détruites, des familles brisées, et aucune réparation n'est possible. Prenons le cas de Cameron Todd Willingham, exécuté en 2004 au Texas pour un incendie criminel qui, selon des experts, n'était probablement pas intentionnel. Son histoire montre le prix d'une justice radicale, la perte de vie d'innocents, cette fois-ci par l'État lui-même. Ensuite, examinons l'argument selon lequel la peine de mort dissuaderait les criminels. Cette croyance est énormément répandue, mais elle ne repose sur aucun fondement solide. Aucun chiffre ne prouve que la peine de mort dissuade davantage que des peines alternatives comme la réclusion à perpétuité. Dans les pays où elle est encore appliquée, comme les États-Unis, les taux de criminalité violente restent aussi élevés.
Nelson Mandela a dit « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Est-ce que le système scolaire français est capable de manier cette arme ? Peut-il garantir un apprentissage tout en garantissant le bien-être des élèves et des professeurs ? Et surtout, est-il adapté à la vie actuelle ? Je m'appelle Lokoma, j'ai 16 ans, et tout comme vous, je connais bien le système scolaire français. Et tout comme vous, il fait partie de ma vie depuis mes 3 ans. Je désire vous ouvrir les yeux sur le quotidien de la vie des élèves et des professeurs dans le système éducatif français d'aujourd'hui. Les bases de l'apprentissage du système scolaire créé depuis Jules Ferry ont évolué, mais ne sont pas adaptées à notre époque. Selon l'OCDE et PISA, Programme international des suivis et des acquis des élèves, le système scolaire français est classé 23e sur les 38 pays de l'OCDE en termes de performance éducative. Nous ne sommes pas loin de la dernière place et pourtant, les décideurs de l'éducation ne se posent pas la question de savoir pourquoi. S'informer et prendre exemple sur les autres ne serait pas un crime. Pour changer les choses, nous aussi, nous pouvons agir. Les enseignants et le personnel éducatif peuvent être à l'écoute des besoins des élèves avec une approche bienveillante, privilégier les dialogues lors d'un conflit plutôt que les punitions strictes permettraient de créer une relation de confiance plus que de hiérarchie. Les parents peuvent également agir en encourageant une communication ouverte avec leurs enfants, leur permettant d'exprimer leurs émotions et grâce à cela, pouvoir soutenir les initiatives de l'école en faveur du bien-être. Les dirigeants de l'éducation nationale doivent agir. Un investissement humain et matériel est nécessaire et urgent. Ils peuvent favoriser une innovation pédagogique, alléger les programmes scolaires ou du moins laisser plus de latitude aux enseignants pour qu'ils puissent s'adapter au niveau des élèves. Et enfin, oui, nous élèves, nous pouvons aussi agir. Le respect envers les autres et un contrôle de ses émotions sont des notions importantes. Nous pouvons également agir ensemble pour exprimer nos besoins et nos idées. Il faut participer aux instances et aux représentations comme les conseils de classe, les conseils d'établissement. La création de pétitions peuvent être une autre possibilité de faire valoir nos idées et nos revendications sur des sujets tels que la surcharge de travail. Nous pouvons aussi sensibiliser notre entourage, dialoguer avec les enseignants et le personnel scolaire pour être autant considérés que les adultes et se sentir écoutés. L'utilisation des réseaux sociaux et de la technologie peuvent être une aide pour la diffusion de nos idées. Nous pouvons dire que le système scolaire français, bien qu'ancré dans une tradition historique et des valeurs importantes, montre aujourd'hui des failles qui engendrent un véritable mal-être chez les élèves et les enseignants. Il est urgent de reconnaître ces dysfonctionnements et de s'unir pour les corriger.
Nous avons le pouvoir de transformer cette institution pour en faire un lieu d'épanouissement et de réussite pour tous. Ensemble, nous devons faire entendre nos voix, agir avec détermination et imaginer un avenir éducatif meilleur. Le changement de notre est à notre portée, mais il commence par une prise de conscience et une mobilisation collective. Alors agissons pour construire une école qui respecte et valorise chaque individu, car c'est en investissant dans le bien-être des générations futures que nous bâtirons une société plus juste et harmonieuse. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde.
Dans le système judiciaire,
les jeunes de Coutances
sont membres d'une unité d'élite appelée Unité spéciale pour les crimes particulièrement monstrueux. Voici leurs histoires.